9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est une icône du journalisme sportif et du football français que je reçois. Il a couvert 14 Coupes du Monde, j'ai fait le calcul, c'est tous les 4 ans la Coupe du Monde, donc 4 fois 14, 56 ans. Plus d'un demi-siècle de carrière à Radio France, dont il a longtemps été le patron des sports. Et puis, en début d'année, comme au mercato du foot, le transfert surprise, qu'on n'imaginait pas, pas même l'intéressé, il quitte le service public pour Europe 1 et on n'est pas mécontent. Comme on dit dans le métier, il arrive avec son carnet d'adresse. Et quel carnet d'adresse ! Il a connu 4 présidents de la République, dont Emmanuel Macron, qui lui avait promis de venir jouer un match de foot avec le Variété Club de France, club créé par lui, et le président a tenu parole. À l'époque de l'épopée des Verts de Saint-Etienne, il allait parfois s'entraîner avec eux, les Rocheteaux, les Jean-Michel Larquet, Robert Hermin, l'entraîneur. Il est allé voir Bernard Tapie en prison, il a le portable de Zidane, d'Alain Prost, de Yannick Noah ou de Didier Deschamps. Il n'hésite pas à les appeler quand il faut aller jouer un match de charité à l'autre bout de la France. Je vais vous révéler son rêve secret, un match sur le porte-avions Charles de Gaulle avec de la moquette par terre. Toutes ces rencontres, et de sa passion insubmersible pour le football, il a créé un podcast, ça s'appelle Les Géants, et pour en parler, je reçois Jacques Vendroux. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Je rappelle cette phrase de Platini, dans ma carrière, dit Platini, j'ai côtoyé 3 légendes, Johan Cruyff, Diego Maradona et Jacques Vendroux. Blague à part, c'est un peu l'idée de ce podcast, faire parler des icônes, faire parler des géants.
C'est-à-dire que ce sont des joueurs, des grands joueurs, qui se sont venus se confier, tout simplement, à Europe 1.
C'est des anges. Pas Europe 1, à vous. On n'aurait pas eu ces confessions.
Oui, mais quand je leur ai dit que c'est pour Europe 1, je veux dire, c'était aussi positif. Vous voyez, il n'y a pas de.
Ok.
Je veux dire, parce que ils aiment bien, Laurent Blanc aime bien Europe 1, Fabien Barthès aussi, on va y revenir dans quelques secondes.
Ouais.
Et donc, si vous voulez, en plus, il faut vraiment être très copain avec eux, parce que quand ils viennent ici ou quand vous allez les voir, vous enregistrez pendant 1h30. Donc, vous êtes bien, bien copain avec eux pour être enfermé dans un studio pendant 1h30. Et avec Sébastien Guyot, le réalisateur, enfin, celui qui me coach, entre guillemets, on a fait un boulot, mais passionnant. J'ai réalisé mon rêve.
Ah oui ?
Je voulais faire parler mes amis de leur exploit. Que ça soit, vous l'avez dit, Laurent Blanc, Michel Denisot, Réginald Beck, avec cette fameuse finale de la Coupe de France avec les amateurs de Calais en 2000.
Ah oui, j'avais oublié.
Mais il raconte le parcours.
Ouais.
C'est fabuleux. Et puis, les vrais Verts de Saint-Etienne, avec Dominique Battenet et Jean-Michel Larquet. Et donc, si vous, Éric Pécou, qui raconte la grande équipe de Nantes, il fallait que ça soit des amis qui acceptent, je veux dire, le plan que je leur propose. Ouais. Moi, c'est la première fois que je faisais des podcasts, et je le dis, Europe m'a permis de le faire, et j'ai réalisé mon rêve, parce que j'ai un côté vintage qui, de temps en temps, ressurgit chez moi. J'en ai envie. Voilà.
Alors, on va entendre un premier extrait, c'est Laurent Blanc qui vous raconte l'épopée de l'équipe de France victorieuse de 98. Moi, j'avais l'impression d'avoir tout lu, et j'ai appris des choses. Ça commence par un stage à Tignes en 97. Ça, je le savais, ce que j'ignorais, c'est que c'était même pas un stage d'entraînement. Ils étaient avec femmes et enfants, c'était un stage pour se connaître, tout le staff, avec évidemment Aimé Jacquet. Toute l'équipe se retrouve donc à Tignes, qui est une station de ski, quand soudain, débarquent à l'hôtel deux types, contrôle anti-dopage. Sauf que c'était hors compétition, mais quand même, il y a contrôle
anti-dopage. Nous sommes en juin 97, c'est important.
7 joueurs sont tirés au sort. Parmi les noms des joueurs, il y a celui de Fabien Barthès. Le problème, c'est que Barthès, à l'instant où les deux gars arrivent, n'est pas à l'hôtel. Or, il est indispensable qu'il soit là, parce que sinon, il peut être disqualifié. Il n'est pas dans sa chambre, personne ne sait où il se trouve. La personne qui a son contact, c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, c'est votre invité. Blanc appelle Barthès. Laurent Blanc vous raconte.
Fabien. Oui, il m'a dit, qu'est-ce que tu as ? J'ai dit, où tu es ? Il m'a dit, je suis descendu un peu dans la vallée. J'ai dit, il faut que tu remontes. Il m'a dit, mais pourquoi il faut que je remonte? Parce qu'Aimé veut te voir. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi? Tu lui dis que demain je serai là, on pourra discuter. Parce que c'était un truc d'échange aussi, tu vois. Mais chacun faisait ce qu'il voulait. J'ai dit, non, Fabien, ça ne va pas être possible. Il faut que tu remontes de suite. Il m'a dit, non, Laurent, c'est pas possible. Je suis avec mes potes en bas. J'ai dit, écoute, il y a un contrôle antidoping et il faut que tu sois là. On m'a dit, arrête Laurent, tes blagues à deux balles. Il ne me croit pas, il me raccroche au nez. Je le rappelle, je dis, Fabien, je te garantis que ce n'est pas une blague. Voilà, il est remonté en folie, parce que lui aussi était en folie, en disant, mais qu'est-ce que c'est ce truc? On passe la Noël ensemble, et vous m'appelez pour un contrôle antidoping.
Il était en folie, on a très très peur. Ces contrôles antidopage ont donné quoi?
Tous négatifs.
Ah, vous me faites peur. Tous négatifs.
Bien sûr, bien sûr.
Avant le début de la compétition, vous en souvenez, on donnait pas cher de cette équipe de France. Je me souviens que c'était un sujet de blague. Je me souviens des guignols qui allumaient Aimé Jacquet jour après jour. Je me souviens du journal L'Équipe. Vous aussi, vous y croyiez à l'époque?
Alors moi, je vais vous dire, moi j'y croyais dès le départ.
Ah oui.
C'est-à-dire que moi, dès le départ, je savais, j'avais dans mon subconscient, j'étais persuadé que la France allait être championne du monde de football. parce que j'avais quatre copains qui y croyaient, qui m'expliquaient comment ça se passait dans le groupe. C'est Laurent Blanc, c'est Fabien Barthez, même Zinedine Zidane. C'était aussi Didier Deschamps. Je les voyais, j'étais sûr, mais c'est incroyable, hein, j'étais sûr qu'ils allaient devenir champions du monde.
Vous avez fait des paris ?
Non, non, je ne suis pas...
J'ai fait un pari, j'avais parié la demi-finale et j'ai gagné. J'ai parié un immense déjeuner avec mon caméraman qu'ils allaient en demi-finale et j'ai gagné.
Philippe, j'avais un pressentiment. C'est aussi simple que ça.
Le pressentiment de Jacques Vendroux se réalise. Les Français passent le premier tour, gagnent en huitième, ils gagnent en quart contre l'Italie, en demi contre la Croatie. Les voici donc annoncés pour la finale. C'est Laurent Blanc qui vous raconte.
On revient au Stade de France et là, on commence à sentir que le pays est derrière nous. Parce qu'on joue au Stade de France, on va au Stade de France de Clairefontaine, on voit de l'agitation, mais vraiment beaucoup d'agitation, et on comprend que les gens...
Le symbole d'intégration pour la France.
On est en finale. On dit que les filles aiment pas le football, mais ça dépend lesquelles.
Oh, excellent, c'est génial, c'est trop cool, c'est bien.
Le 12 juillet, la France va donc affronter le Brésil. La finale rêvée. Ce dimanche matin à Clairefontaine, il n'y a pas d'excitation particulière. Tous les joueurs prennent leur petit déjeuner ensemble. Sur la porte de sortie de Clairefontaine, avant de monter dans le car, il y a une affiche avec le visage de Laurent Blanc, qui va donc manquer la finale, et ce slogan, faites-le pour lui.
Et il faut le dire, parce que Laurent Blanc avait été expulsé.
Il avait été expulsé, c'est vrai. Il a regretté d'ailleurs cette faute, mais qui n'était pas vraiment une faute, etc. Enfin, il y avait une sévérité incroyable. Non, franchement, il y avait une sévérité incroyable de la part de l'arbitre, mais il l'a pris avec philosophie. C'est ça la qualité de Laurent Blanc. Il a fait « Ok, j'ai peut-être fait une petite boulette, je suis expulsé, je ne vais pas jouer la finale, mais maintenant je vais me mettre à la disposition du groupe pour essayer de les emmener à ce titre de champion du monde. Normalement, il doit assister à la finale, je veux dire, en tribune, c'est le règlement. » Il a l'autorisation exceptionnelle par Michel Platini, qui est l'un des organisateurs de la Coupe du Monde, de venir s'asseoir sur le banc. Donc il y a Jacquet qui dirige, il y a Henri-Émile qui dirige, et il y a Laurent Blanc qui dirige. La preuve, il deviendra entraîneur plus tard.
Donc on est le 12 juillet 98, c'est la finale. Vous allez entendre le commentaire en direct sur l'antenne d'Europe 1. Et après coup, l'information Jacques Vendroux.
C'est un corner que va tirer Emmanuel Petit à droite en regardant les buts de Taffarel. Taffarel est endossé au nord de Paris. Attention, Zidane but ! But de Zidane ! But de Zidane ! Oh ! Oh ! Zizou ! Zizou, qu'est-ce que tu nous fais là ? Qu'est-ce que tu nous fais là ?
Le matin même, Aimé Jacquet a insisté auprès de Zidane. Les Brésiliens ne sont pas très vigilants sur les coups de pied arrêtés.
Je ne connaissais pas cette info, on a évidemment reconnu la voix du regretté Eugène Saccomanno.
Exactement, Eugène Saccomanno qui était, comme on le sait, ici à Europe 1, et puis après dans une autre vie à RTL, je veux dire, un merveilleux commentateur. C'est vrai qu'Aimé Jacquet, il disait toujours... Aimé Jacquet avait une spécialité incroyable, c'est-à-dire qu'il avait un esprit d'analyste, si on peut dire comme ça, de l'équipe adverse, qui était fabuleux quand il était entraîneur de Nancy, de Bordeaux, de Montpellier, il voyait tout avant tout le monde. Et il avait remarqué, sur les matchs du Brésil en 98, que les Brésiliens n'étaient pas très très sérieux sur le plan défensif dans leur surface de réparation.
Surtout sur les coups de pied arrêtés.
Mais c'était pas... On ne s'en apercevait pas tout de suite. Il fallait vraiment analyser. Il a revu, je ne sais pas moi, 10 000 fois les corners de l'équipe du Brésil. À chaque fois, il prenait des buts, etc. Il a dit, c'est là où on va marquer. Il le dit à Zidane.
Ouais.
Et Zidane, il met deux buts quand même.
Exactement. Et le deuxième, aussi de la tête, aussi sur un corner, tiré par un autre. Voilà pour ce podcast avec Laurent Blanc. Ce n'est pas fini. Les géants, ça continue. Et comme on est ici dans la maison, on a eu en avant-première, parce que ce podcast est disponible, du son du prochain podcast avec Michel Denisot. Jacques Vendroux reste avec nous. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Jacques Vendroux, icône du journalisme sportif, plus d'un demi-siècle de carrière. Vous étiez à Radio France, c'était le patron des sports. Vous êtes depuis janvier 2022 à Europe 1. Beaucoup d'interventions sur l'antenne, on va en parler. Et ce podcast, ça s'appelle Les Géants avec Laurent Blanc. Le podcast, il est diffusé, il est mis en ligne, disponible à partir de lundi. Vous avez eu quel retour ?
Que des retours positifs. Ouais. C'est-à-dire que, alors évidemment, ça me fait plaisir. Le plus grand retour que j'ai eu, c'est Fabien Barthez, qui m'envoie un SMS, qui me dit « Je viens d'écouter ton podcast avec Laurent Blanc, je suis candidat pour faire l'Euro 2000 où la France est championne d'Europe avec Barthez dans les buts, avec ce fameux but en or de Trezeguet, vous vous souvenez ?»
Bien sûr.
Et donc, Fabien me dit « Je suis candidat, Et je lui dis, bon, bah, tu es ma prochaine victime. Il m'a dit, tu viens quand tu veux à Toulouse, je le fais avec toi avec un immense plaisir.
Parce que vous vous déplacez, vous allez sur place,
bien
vous
sûr.
Chez vous, ou là, avec, là Laurent Blanc,
non, avec Sébastien Guyot, on a été faire Jean-Michel Larquet chez lui à Saint-Jean-de-Luz. Dominique Battenet, par exemple, vient aussi enregistrer. Laurent Blanc était ici. Bon, je veux dire, c'est en fonction de l'emploi du temps des uns et des autres. Mais il faut vraiment qu'on soit très, très copains, parce que vous enfermez quelqu'un pendant une heure et demie qui vous raconte sa vie d'il y a 45 ans. Le passé, il appartient à tout le monde. Il appartient à tout le monde, le passé.
La semaine prochaine, ce sera un podcast avec Michel Denisot. Pourquoi lui ? J'ai vu que vous aviez démarré avec trois Michel. Avec Michel Denisot, Michel Drey, Michel Drucker.
Oui, c'est vrai que j'ai débuté avec des... Je les vois toujours, d'ailleurs. On est toujours très amis. Et Michel Denisot, je veux dire, c'est quelqu'un... En plus, Michel Denisot, c'est un merveilleux conteur. Donc quand je lui ai dit, Michel, tu vas venir ici à Europe 1, tu vas enregistrer pendant une heure et demie tout ce que tu as vécu au Paris Saint-Germain. En plus, Michel, c'est un remarque, vous le connaissez, c'est un conteur.
C'est mieux que ça, moi j'ai travaillé ici, puisque Europe 1, nous sommes dans les anciens locaux de Canal+, donc oui. Je me souviens exactement où était le bureau de Michel.
Et Michel,
à cet étage.
Michel, c'est un conteur, c'est incroyable. Il a des anecdotes, et il a toujours refusé d'en parler et de revenir sur le passé. Toujours, j'ai dû lui dire, Michel, fais ça pour moi. Fais ça pour moi, il m'a dit, y a pas de problème.
Et là, il l'a fait. Je le croisais tous les jours, et je ne connaissais pas cette histoire. Alors, pour qui ne saurait pas, il était animateur de télé sur Canal, mais pas seulement, il était à TF1, il a fait de la radio. Il a aussi été le président du PSG de 91 à 98, avec qui il a remporté une Coupe d'Europe, la Coupe des Coupes. Et là, il revient à votre micro sur cette époque. Je vais donner le contexte. On était très très loin des pétrodollars au PSG. On est en 90-91, le PSG était en cessation de paiement. Bernard Brochon, l'un des deux présidents du PSG avec Francis Borrelli, cherche des repreneurs à la demande de Jacques Chirac, maire de Paris. La ville en a marre de payer autant pour un club qui gagne peu. Brochon fait le tour des médias, Bernard Brochon, le président, il va à TF1 sans trop de succès, il va à Canal+, et cela intéresse le président de l'époque, André Rousselet. Michel Denisot vous raconte la suite. Attention, ça s'est passé très vite pour lui.
C'est Charles Bietri, Pierre Lescure, André Rousselet qui bouclent ce dossier. Et André Rousselet organise une réunion avec les cadres de Canal, dont je fais partie, et dit maintenant qui va présider le club. Est-ce que Charles Bietri peut être président du club? André Rousselet dit déontologiquement il ne peut pas être directeur des sports et président du club. Et la direction des sports est considérée évidemment à juste titre comme plus importante. Et donc, il fait le tour de la table et je ne m'attends pas à quoi que ce soit. Et donc, arrive à mon tour et il me dit « ça serait bien que ce soit vous ». Et je suis un peu surpris, je n'avais pas été prévenu. Je suis un peu surpris et donc je lui dis « je vous remercie, je vais réfléchir un peu ». Et il me répond « à votre place, je ne réfléchirai pas plus que ça ». Et donc j'ai dit « bah oui ». Voilà. Et je suis rentré le soir chez moi, j'ai dit à ma femme « je suis président du PSG ».
Et voilà, podcast qui va passer lundi. Merci de ce petit cadeau, de l'avoir eu en avant-première. J'ai des questions médias pour vous, Jacques Vendroux, parce qu'on a annoncé, la presse a annoncé un changement de grille à la rentrée sur Europe 1 avec une grande place donnée au sport, au moins 3h30 d'antenne par jour avec l'émission Europe 1 Sport, 7 jours sur 7. Du lundi au dimanche soir, de 20h à 23h30, autour de Lionel Rousseau et d'autres. Vous allez y prendre quelle part, Jacques Vendroux ?
Je vais y participer à chaque fois qu'on aura besoin de moi, avec Jean-François Pérez, qui est le patron des sports. Et puis, c'est un challenge incroyable. C'est-à-dire que, personne n'a le monopole, de faire le sport. Nous, Europe 1, on veut faire le sport différemment. On veut faire des grandes interviews, on veut faire des grandes enquêtes. On ne va pas parler que de football, vous voyez, on va élargir. Et c'est vrai avec Lionel Rousseau et surtout avec Jean-François Pérez. C'est un challenge qui est excitant, mais vous ne pouvez pas imaginer.
Ah bah j'imagine bien, vous avez annoncé que peut-être le curé de Saint-Omer ferait partie de la Dream Team, donc ça m'a passionné. Mais ce qui m'intéresse, que le temps passe, c'est on annonce la venue à l'antenne d'un consultant hors norme, votre ami Michel Platini. C'est fait, c'est pas fait, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?
C'est pas le moment de parler de Michel Platini, il est en plein procès avec la FIFA et l'UEFA. Donc si vous voulez, Michel a été, on ne va pas se la faire à l'envers, nous l'avons approché.
Ouais.
Il a demandé simplement de faire un petit break pendant la durée de son procès et dans une dizaine de jours, on retournera le voir à Cassis pour lui essayer de le convaincre pour qu'il vienne avec nous. Voilà. Mais rien n'est fait, rien n'est fait.
Nous sommes le 16 juin 2022. Il y a 10 ans, jour pour jour, le 16 juin 2012, c'était la disparition de Thierry Roland, figure emblématique du foot à la télé. C'était l'un de vos meilleurs amis. Vous avez maintenant 74 ans, je ne trahis pas un secret. Quel regard vous portez sur la nouvelle génération de journalistes qui arrivent dans le métier? Est-ce qu'ils ont la même passion que vous aviez, qui est chevillée à votre corps? Vous regardez un petit match de D2, comme c'était la finale de la Coupe du Monde, Jacques Vendoux, je le sais depuis le temps que je vous connais. est-ce que la mentalité de ceux d'aujourd'hui, c'est la même que la vôtre, ou Thierry Roland à 25 ans ?
Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que vous avez des grands commentateurs, je parle de Marc Gauthon, je parle de Lisa Razou, qui sont de très très bons commentateurs, comme Stéphane Guy, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas le... Nous, c'est obsessionnel. Nous, c'est un toc. Je veux dire, c'est peut-être le drame de notre vie, c'est-à-dire que le football est prioritaire sur tout, sur la famille, etc. Moi, j'ai eu la chance d'être commentateur de football, j'ai réalisé mon rêve, je voulais devenir Gordon Banks.
Gardien de but de l'équipe d'Angleterre, immense gardien.
Ou je voulais devenir Thierry Roland. Mais je ne suis jamais devenu Thierry Roland, parce qu'il était bien supérieur à moi. Et donc Thierry m'a formé quand j'ai débuté à la télévision en 1966. Et c'est vrai que les commentateurs de maintenant, pour moi, les deux meilleurs, très honnêtement, sont Marc Gauthon, qui est très passionné, et Lisa Razou, il vous amène quelque chose que les autres n'ont pas, vraiment. Et donc, moi, j'ai plaisir à parler avec eux, j'ai plaisir à échanger avec Bichente, et je suis sûr que, vous voyez, ce qu'on parle des passionnés, tous les gens qui ont participé au podcast, que ce soit Denisot, que ce soit Réginald Beck, Éric Pécou, que ce soit Jean-Michel Larquet, ou encore Dominique Battenet, ce sont des passionnés du foot et de la vie. Ce sont des gens positif. Et vous prenez un garçon comme Jean-Michel Larquet, qui habite le Pays Basque, il va aller, le dimanche matin, il va aller voir un match de 14e division entre deux clubs du Pays Basque. C'est ça la passion, et c'est ça le respect.
Merci beaucoup Jacques Vendroux. Je rappelle ce podcast Les Géants, ça s'écoute sur toutes les plateformes, un épisode par semaine. Laurent Blanc déjà disponible, Michel Denisot à partir de lundi. Merci d'avoir été avec nous, c'est produit par Europe 1 évidemment. Dans un instant nous serons avec le journaliste Francis Letellier, il anime l'émission politique du dimanche midi sur France 3, mais il n'y sera pas ce dimanche midi, non, parce qu'il sera le dimanche soir, c'est la grande soirée des législatives et c'est très important de la voir sur France 3 avec leur couverture particulière, puisque c'est dans chaque circonscription. Francis Letellier, il arrive dans ce studio.
Philippe Blondel, Culture Média, sur Europe.